pas rester ici. Les sergents te cherchent de tous côtés. Fuis et que Dieu te garde. Mon cœur sait que tu ne peux pas avoir commis le plus petit crime. » Andreas lui serra obligeamment les mains. Puis sans attendre, il retourna dans la rue, passa la capuche sur son crâne chauve, et fila vers le sud. D'un pas preste mais sans courir tout de même, pour ne pas attirer l'attention, il descendit tout droit jusqu'à la Seine, en prenant soin d'éviter le quartier du Châtelet. Traversa le fleuve, et la tête rentrée dans les épaules, se fondant à la foule des marchands, il quitta Paris par la grande voie Saint-Jacques, que les pèlerins de Compostelle empruntaient pour aller vers Orléans. Sur cette route, se trouvait la ville d'Artenay, où Andreas Saint-Loup, dès lors, décida de se rendre, puisqu'il ne pouvait plus se risquer à rester entre les murs de Paris, et que là-bas, selon Maître Eckhart, se cachait ce mystérieux moine défroqué, auquel il voulait en parler. Et c'est ainsi que, en ce matin du 10 mars de l'an 1313, au moment où au sud du pays la jeune Alice quittait Béziers pour Bayonne, Maître Saint-Loup, tel Ulysse s'éloignant d'Ithaque, prit cette route de légende que 18 ans plus tôt, il avait suivie pour la première fois. Livre 2. Où l'on suit Andreas Saint-Loup sur la route qui mène au royaume de Navarre, et la jeune Alice sur celle qui conduit à Bayonne. Et où l'on voit comment l'un et l'autre doivent faire face à moult péripéties. Chapitre 52. Comme l'ordonnance royale datait du matin même, Andreas estima que s'il marchait vite et tout le jour, il pourrait parcourir plus de 20 000 et arriverait au soir dans un village où, avec un peu de chance, on ne l'aurait pas encore affiché. Il aurait alors le loisir de dormir dans une auberge sans être inquiété, à condition, certes, que le roi n'ait pas déjà envoyé ses messagers porter la nouvelle à cheval à travers tout le royaume. Ainsi, il marcha sans discontinuer vers le sud, s'extirpant d'abord des faubourgs qui s'étendaient autour des remparts de la capitale. Il longea le prieuré bénédictin de Notre-Dame-des-Champs et s'enfonça dans la campagne jusqu'à ce que Paris, merveilleuse et menaçante à la fois, disparut enfin dans son dos. Comme c'était la voie pour se rendre à Orléans, il y avait sur cette route bien d'autres voyageurs, à pied, à cheval ou en charrette, si bien qu'il ne détonna guère parmi eux, et que personne ne lui prêta attention. Les nombreux commerçants qui montaient vers la grande ville avec toutes leurs marchandises le saluaient en passant. Et il se contentait de leur retourner un petit signe de la main sans ôter sa capuche qui, il l'espérait, éviterait qu'on se souvînt plus tard de son visage et qu'on le reconnût. Sans s'arrêter un seul instant, l'apothicaire traversa le village de Longjumeau, où, en apercevant l'une de ces anciennes commanderies que les Templiers avaient semées dans le pays tout entier, il ne put s'empêcher d'avoir une pensée pour Jacques de Molay, encore reclus dans la prison du Temple. Puis, il dépassa Brétigny et Saint-Germain-les-Arpajons. La nature autour de lui était en train de reprendre ses droits, et l'on pouvait admirer, là où la terre n'était pas cultivée par l'homme, la richesse de la flore qu'offrait en ce temps la vallée de l'Essonne. Ses charmes aux feuilles finement dentelées, ses harmonieux érables, ses bouleaux verruqueux à la blanche écorce, ses aulnes, ses frênes, ses châtaigniers, ses hauts peupliers dont les branches semblaient trembler de honte, ses rosiers des champs, ses groseilliers rouges. Plus on avançait vers le sud, et plus les traces de la présence humaine se faisaient rares, laissant la place aux arbres, aux bêtes, à la terre et au ciel, ainsi qu'à la méditation. Avec lui, Andreas ne portait que quelques herbes et épices, sa fiole de diacode, une bourse pleine de 3 livres tournois tout au plus, et sa petite balance d'apothicaire. Il n'ignorait pas que cette pauvre somme d'objets ne l'emmènerait pas bien loin, et qu'il n'aurait pas assez de son loc pour tenir plus que 2 jours. Certes, il avait à sa ceinture tous les ingrédients nécessaires pour en fabriquer de nouveaux, mais il fallait pour cela passer une journée entière dans un laboratoire, ce dont il n'aurait sans doute pas le loisir. Pour l'heure, toutefois, ce n'était pas sa véritable préoccupation. Le plus important restait de fuir, et il le faisait avec d'autant plus d'ire qu'il ignorait encore les véritables motifs de son accusation. Encore qu'en ce temps, il n'était pas toujours nécessaire d'en avoir pour mettre un homme au fer. Guillaume de Nogaret devait être à l'origine de